Chers amis auditeurs de Radio Maria France, ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes, laissez souffler l'air. C'est notre émission Souffle avec le Père Jean-Michel Tour que nous retrouvons tout de suite.
Ouais, ouvrez vos cœurs aussi. Ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres. Tu peux monter mon... Voilà, merci. Mes oreilles. J'espère que vous allez bien, que... Hey, c'est une semaine top là. C'est la semaine où, dans une même semaine, on est, on est le deuxième mercredi et on est le troisième jeudi. Allez comprendre, si vous avez mal à la tête, allez prendre une aspirine. Deuxième mercredi, donc aujourd'hui vous avez souffle, et demain c'est le troisième jeudi, donc il y aura la messe charismatique de guérison des malades à 11h15, je crois, si je me rappelle bien, demain. Voilà, donc ne loupez pas cette messe demain en direct des studios de Radio Maria, de la chapelle de Radio Maria. Aujourd'hui, on va se mettre dans la présence de Dieu et j'avais à cœur de reprendre ce magnifique passage de l'évangile de Saint Jean qu'on a eu ce matin à la messe, du chapitre 5, qu'on lit jamais ou rarement et qui, parce que si vous l'écoutez d'une oreille distraite, vous dites « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il raconte ?» comme tout Saint Jean. Et pourtant, ça nous dit des choses essentielles sur notre Père, sur Jésus, sur nous, sur plein de choses, sur la résurrection dans laquelle nous devons vivre. Et donc, c'est indispensable de voir ça avant de terminer notre chemin vers Pâques, parce que c'est dans ça qu'on va arriver, qu'on va célébrer au moment de Pâques. Alors, Seigneur, merci pour ta présence. On veut vraiment te louer, élever nos cœurs dans cette louange sans cesse et te glorifier, Seigneur, parce que toi seul es saint et que ta présence est sans agissante dans notre vie. Bon, j'espère que vous avez sauté de votre fauteuil et que vous êtes en train de danser. Et voilà, c'était Glorious. J'ai passé un petit week-end sympa, super sympa à Lyon. Il y avait la conférence de Lyon Centre. Donc, vous savez, c'est cette église Sainte-Blandine à Lyon, ce laboratoire qui est fait dans le diocèse de Lyon où donc Glorious est résident dans cette paroisse, où il y a la louange au cœur de cette paroisse avec toute une adaptation de l'église et toute une transformation de la pastorale aussi. C'est extrêmement impressionnant et c'est extrêmement puissant. Donc, si vous êtes du côté de Lyon, n'hésitez pas le dimanche à aller à la messe avec Glorious. C'est vraiment quelque chose de particulier. Donc, et une conférence par an. La conférence Lyon Centre l'année prochaine au printemps. Donc on aura encore un morceau de Glorious parce que vraiment, ils ont de la bonne louange. Alors on va parler de ce Jean 5 et je vais peut-être vous le lire tout simplement d'abord et après on va reprendre quelques phrases et les approfondir. En ces temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement ils ne respectaient pas le sabbat, mais encore ils disaient que Dieu était son propre Père, et ils se faisaient ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole, il leur déclarait « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait revivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même, je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà, et je trouve que ce passage, il est extraordinaire parce qu'il nous parle de cette unité avec Jésus, de Jésus avec son Père, de son ministère, qui n'est pas son ministère, mais qui finalement est la réalisation de la volonté, la matérialisation et la réalisation de la volonté du Père. Et le but, c'est effectivement cette vie éternelle, c'est avec cette perspective du jugement. Voilà. Et puis, au milieu, il y a un peu l'adoration, l'amour du Père pour le Fils et cet honneur que nous devons rendre au Fils et au Père. Et donc, c'est le contexte, c'est un contexte de polémique, puisque Jésus vient de guérir un paralysé le jour du sabbat. Donc déjà, il y a deux choses. Il y a le fait que la guérison, c'est quelque chose. C'est le signe que le royaume de Dieu est là. Et ça reste important. C'est à la fois un signe que la puissance de Dieu est là, et donc que le Christ, que la maladie n'est pas dans le plan de Dieu, et que la paralysie non plus, et que du coup Jésus, quand il guérit un malade, il dit: ok, je viens rétablir un ordre qui a été cassé par le péché originel. Et mais c'est pas le but, n'étant pas juste la guérison, c'est le signe d'une guérison plus profonde, qui est celle de la guérison de l'âme, arrachée au péché, sauvée de la damnation, pour être réintroduit dans cette alliance et dans cette liberté. Et cette liberté corporelle du paralysé qui peut à nouveau marcher, qui retrouve une indépendance, une sociabilisation, c'est au niveau corporel, c'est un signe de ce qui se passe au niveau spirituel et au niveau intérieur quand le Seigneur nous libère du péché et qu'il nous restaure dans cette intimité avec lui, dans cette alliance avec son Père. Voilà, et c'est exactement ça que dans laquelle nous devons entrer. Et donc ça se passe le jour du sabbat. C'est le deuxième problème, c'est que il n'avait pas le droit, Jésus, de faire ça le jour du sabbat, parce que le jour du sabbat, on n'a le droit à rien, ni marcher, ni allumer un four, ni faire à manger, ni sortir ses bœufs, ni quoi que ce soit. Donc, on imagine, c'est pas marqué, mais on imagine que, du coup, guérir un malade, le jour du sabbat, c'est interdit aussi. Et pourtant, Jésus le fait assez souvent, finalement, pas par provocation, ou peut-être que si, parce que s'il y a quelque chose que Jésus n'aime pas, c'est quand on est sous une loi de religiosité. Et Jésus vient casser cette loi de religiosité, c'est-à-dire là, l'interdit du Shabbat, c'est véritablement pas ce que Dieu voulait. Le Shabbat, le sabbat, c'est le jour où Dieu se reposa. Et nous sommes invités nous-mêmes à vivre dans cette alliance avec Dieu, donc à entrer dans le repos de Dieu. On a 6 jours pour travailler selon la volonté du Père, dans l'œuvre du Fils, avec la puissance de l'Esprit. On va voir ça dans tout ce que je vais dire si j'ai le temps. Mais le 7e jour, si en tant que membres de l'Église, nous devons agir, faire les œuvres du Père nous-mêmes dans le Fils, comme le Fils fait les œuvres du Père, eh bien, le 7e jour, nous devons nous reposer dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit, enfin, peu importe, nous devons nous reposer en Dieu, parce que c'est le jour que Dieu a consacré pour le repos en lui. Dieu se reposa de toute l'œuvre qu'il avait faite. Le 7e jour, il se reposa, il vit que son œuvre était très bonne, voilà, mais il se repose. Et nous, le Shabbat, donc, qui est maintenant pour nous le jour de la résurrection, le 8e jour, le dimanche, eh bien, nous nous reposons en Dieu. Et ça, c'est déjà quelque chose à repréciser, effectivement. Mais donc, c'est bien le jour de, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour où on est encore plus uni à Dieu, je pourrais dire, mais pas de la même modalité, mais où on prend le temps. Et donc l'homme, Jésus le dira, l'homme n'est pas fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. C'est le sabbat qui est fait pour que l'homme se repose davantage en Dieu, reprenne des forces en Dieu, et que Dieu, qu'il se laisse bénir par Dieu. Et une guérison, par excellence, c'est une bénédiction de Dieu pour l'homme, quand même. Si vous êtes malade, si vous êtes handicapé, je pense que vous ne prendrez pas ça comme une malédiction, que Dieu vous soulage vos souffrances. Et au contraire, ce sera une vraie bénédiction, une manifestation de l'amour de Dieu pour vous, tout simplement, et de sa puissance, et de juste, voilà, Seigneur, tu m'as libéré, et je chante ta louange. Et donc, c'est bien dans la continuité du sabbat. Mais effectivement, la loi des Juifs s'opposait à cette liberté de Jésus qui venait recadrer les choses. Donc, la déclaration que va faire Jésus s'ensuit juste après ça. Hein. Il s'adresse à ces juifs qui lui reprochent d'avoir guéri le jour du sabbat. Donc à des personnes qui sont dans cette religiosité, et il va les amener à, il va leur expliquer, il va se justifier ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait, et aussi les amener plus loin dans cette relation qu'il a lui avec son père, parce que c'est véritablement c'est ouvrir au mystère de Dieu que de contempler Jésus comme fils de Dieu et non pas comme l'homme qui faisait des grandes choses. Alors, le premier verset que Jésus va leur dire, c'est « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre ». Il justifie ça, la guérison qu'il vient de faire en disant « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis toujours à l'œuvre ». La première chose, c'est que le Père est toujours à l'œuvre. Je trouve cette phrase, elle m'a touché ce matin. Je me suis dit « Waouh, le Père est toujours à l'œuvre ». Nous, on imagine qu'on fait des prières, on demande à Dieu de nous guérir, on demande à Dieu de nous bénir, on expose à Dieu nos choses, nos histoires, ce qui habite notre cœur. Et en fait, on imagine que par notre prière, on va déclencher l'action de Dieu en réponse à ce que nous lui avons adressé, en réponse à notre louange, Dieu va nous bénir. En réponse à ce qu'on lui a demandé, Dieu va nous donner cette chose, un travail, une maison, une voiture. Et... alors ça ne doit pas être complètement faux cette histoire, parce que Dieu exauce nos prières aussi, puisque Jésus dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Dieu sait ce dont vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé, mais Dieu veut quand même qu'on le demande. » Donc ça, c'est quand même pas tout à fait faux ce que je viens de dire. Mais il y a une action qui est incessante, le Père est toujours à l'œuvre. Le Père agit tout le temps, dans le secret de notre cœur, là-haut dans le ciel et dans notre cœur, bien évidemment. Il y a ce travail d'amener toute chose à la bonne fin qu'il a prévue depuis toute éternité, avant qu'il crée le monde, avant qu'il crée l'univers, avant qu'il crée l'espace-temps, avant qu'il nous crée cette belle nature et puis qu'il nous y pose comme dans un écrin, avant qu'il nous crée à son image. Il y avait un dessein bienveillant, hein, et Dieu vit cette création qui était bonne, et Dieu vit l'homme qui était très bon, qu'il a fait à son image, destiné à être Dieu, à diviniser, à sa ressemblance, à être Dieu avec lui, et par sa grâce. Et puis voilà, bon, après il y a eu l'histoire du péché originel, etc. Et donc il y a à la fois l'action du Père qui est toujours tendue vers cet achèvement de la création, hein. On lit dans la Bible, la création tout entière aspire à voir la révélation des fils de Dieu. Donc on est bien dans cet achèvement, ce chemin où nous-mêmes, on ne sait pas encore qui nous serons dans la plénitude de notre être. Nous le serons quand nous le verrons, lui, Jésus, tel qu'il est. Et nous nous verrons à ce moment-là, nous aussi, dans cette réalisation. Mais pour l'instant, nous ne nous connaissons que selon la chair. Mais Dieu, lui, nous connaît selon le plan, son dessein, qui vient de toute façon, enfin, qu'il mène à bon terme par sa grâce, par son fils bien-aimé qui s'associe à son œuvre. Donc, mais il y a comme une disposition de notre cœur et une conviction dans laquelle nous devons rentrer que le Père a cette disposition positive à notre égard. Le Père a cette disposition favorable à Notre-Dame. Et il a cette faveur toujours à notre égard. Toujours la faveur. Et cette faveur, elle nous est obtenue parce que le Christ a donné sa vie pour nous à la croix. Et il y a une faveur en permanence pour nous. Il n'y a jamais une colère de Dieu contre nous, même après une chute. Il y a toujours une faveur, la faveur pour le relèvement, la faveur pour nous encourager, la faveur pour nous redonner courage, la faveur pour nous bénir, la faveur pour nous guérir, la faveur pour... qu'on soit de plus en plus fils de Dieu. Il y a toujours dans le cœur du Père une faveur. Il n'y a jamais de la déception ou la colère. Il y a une patience infinie parce qu'il y a un amour infini et il y a une faveur infinie. Et c'est extrêmement important de proclamer ça pour que mon cœur soit dans cette fermeté de l'assurance. Vous savez, la foi est une ferme assurance, hein, des biens qu'on espère. Et ce bien-là, cette faveur que j'espère, elle prend son pivot dans cette parole de Dieu qui dit « Mon Père est toujours à l'œuvre et voilà, je me pose dans ça et Jésus se situe par rapport à ça. Si le Père est toujours à l'œuvre, Jésus va dire moi aussi je suis toujours à l'œuvre et le Christ n'arrête pas non plus de nous bénir parce que le Christ va être, on va le voir dans un instant, celui qui réalise l'œuvre du Père et donc si le Père est toujours à l'œuvre, le Fils ne peut pas ne pas être autant à l'œuvre. Il est exactement l'action du Père. Si le Père est toujours à l'œuvre, le Fils sera exactement toujours à l'œuvre. S'il ne peut pas être un tout petit peu moins, le Père serait plus à l'œuvre et le Fils un peu moins, ou le Père serait à l'œuvre et le Fils un peu plus parce qu'il fait du zèle. Non, rien. Il y a une parfaite adéquation entre l'œuvre du Fils qui accomplit et qui rend visible et qui est parfaitement identique à l'œuvre du Père dans sa volonté divine. Donc la volonté divine, c'est vraiment et entrer dans la volonté divine, c'est vraiment accueillir la volonté, l'œuvre du Père et du Fils par le Fils dans notre vie. C'est comme, donc si le Père est toujours à l'œuvre, c'est que forcément quand je rentre dans la prière et que je dis que je, par la foi, je descends dans mon cœur et je commence à m'adresser à mon Père, et je peux le faire parce que le Fils m'a rendu digne de cela et je peux me tenir, je peux m'avancer avec pleine assurance devant le trône de Dieu, nous dit la Bible. Et donc je m'avance avec pleine assurance devant le trône de Dieu. Eh bien, c'est un peu comme quand ne pas avoir un effet dans mon cœur. Je ne peux pas m'approcher de Dieu et me dire « ça n'a pas marché ». Si ça n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose qui... J'ai laissé la porte grande ouverte et il y a quelqu'un qui est venu voler mon trésor, mon cadeau. Mais je ne peux pas entrer dans l'eau. Ça va être bientôt le temps de la plage, donc mon image est très, très estivale. Je ne peux pas entrer dans la mer sans être 100% mouillé. Vous comprenez le truc ? Je ne peux pas rentrer dans la mer en espérant qu'il y aura un centimètre carré qui ne va pas être mouillé. Dès que je rentre dans la mer, je suis 100% mouillé. Hein ? De la même manière, quand je rentre dans la présence du Père, et c'est sans doute une grâce à demander, hein, d'entrer dans la présence du Père, alors je rentre 100% dans l'action du Père. Et le Père qui est toujours à l'œuvre, immédiatement, fait son travail. C'est comme si tu mets la main dans le feu, immédiatement, le feu fait son travail et te brûle. Si tu mets ta main dans l'eau, immédiatement, l'eau a fait son travail et elle te mouille. Il y a une réaction physique immédiate. Donc quand je rentre dans la présence du Père, il y a une réaction spirituelle immédiate. Je n'ai pas à parler comme dans une espèce de vide spirituel en disant « Est-ce que Dieu, tu entends ma prière ?»« Eh oh Dieu, là-haut, tu m'entends ?»« Oh oh !» Bon, non, dès l'instant tu dis « Père, il est là tout ouï » parce qu'en fait, il ne t'a jamais quitté. Tu ne surprends même pas, je veux dire. Dès que tu pries le Père dans le secret de ta chambre, dans le secret de ton cœur, que tu le remercies, tu rejoins l'attitude de son cœur qui n'a jamais cessé d'être tourné vers toi. C'est toi qui es toujours, ou moi, enfin c'est nous, qui sommes toujours tournés vers vers nous-mêmes et à gémir sur nos pauvres gémissantes attitudes, ou vers nos problèmes extérieurs, ou vers nos désirs, ou vers tout ce qui nous occupe la tête et la vie matérielle de tous les jours. Mais dès l'instant qu'on se tourne vers le Père, à ce moment-là, on se rend compte que le Père n'a jamais cessé de me regarder dans tout ce que j'ai fait, dans ce que j'ai fait tout seul, sans prendre le temps de le vivre dans sa volonté divine, dans ce que j'ai fait de mal, dans ce que j'ai fait contre sa volonté, mais je me suis planté dans tout ça, et le Père me regardait, et il était là. Il dit, si tu m'avais demandé, mon petit chéri, si tu m'avais uni à ce que tu as fait, hein, tu vois. Et voilà, et Jésus est parfaitement donc uni à son Père. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Et Dieu agit, le Père agit, le Fils agit. Il n'y a pas que le Fils qui agit en fonction de, par l'œuvre de sa croix, il agit ce qu'il a fait à la croix, il réalise parfaitement l'œuvre du Père. Et il continue. Et l'œuvre de la croix n'est pas le but ultime, c'est le point de départ en vérité. Hein? Et toute la suite, c'est-à-dire l'œuvre de sanctification, l'œuvre qui va me transformer par sa grâce, ça c'est véritablement l'œuvre du Père. Parce que l'œuvre du Père, c'est de faire de moi son Fils bien-aimé. Ce pourquoi il m'a donné l'existence, ce pourquoi il m'a appelé dans son éternité, quand il a prononcé mon nom et que je suis venu à l'existence par le biais de l'amour de mes parents, eh bien, cette prononciation de mon prénom, de mon prénom qui m'a fait venir à l'existence, c'était dans un but précis. Dieu, quand il prononce mon prénom, il a la réalisation plénière du Fils bien-aimé que je suis. Pour l'instant, ça m'est encore un peu caché. Et il a la réalisation plénière de toute l'œuvre qu'il prépare lui-même d'avance, Saint Paul nous dit ça, hein, qu'il nous a appelés pour réaliser les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et Dieu nous appelle à l'existence pour que nous pratiquions une œuvre bonne pour laquelle on est destiné, et il la prépare lui-même à l'avance, comme le Père agit toujours dans le ciel, est toujours en action, et c'est par le Fils et dans l'Esprit que nous avons cette réalisation dans notre vie, par le travail de la grâce, hein. Eh bien, c'est comme si vous aviez l'économie du salut et de la sanctification qui sont par le Fils dans l'Esprit, mais ce qui se passe dans notre vie humaine, dans cette économie du salut et de la grâce, est déjà complètement présent dans l'œuvre du Père dans l'éternité, et, puisqu'il est la source de tout bien et de tout amour. Donc voilà. J'espère que vous suivez, que c'est pas 3000 dans les sphères. Vous réécouterez en podcast si vous n'avez pas tout compris. Moi, je m'enseigne en même temps là, parce que je sens que je suis complètement en flux tendu, et je trouve ça énorme de contempler notre Dieu Trinité, au lieu de dire sans cesse je comprends rien à la Trinité. En fait, c'est pas la conception théologique qui est intéressante. C'est justement cette action qui est trinitaire, c'est ce qui vient du Père, qui est réalisé dans le Fils et par le Fils dans l'Esprit. Il y a une unité parfaite en Dieu, et cette unité, elle est à la fois dans l'être de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, et elle est aussi parfaite, cette unité dans l'agir, dans l'action. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre, et cette puissance de mise en œuvre, c'est l'Esprit Saint. Cette unité est parfaite. Jésus en parle un peu dans l'Évangile, quand il dit « Qui me voit, voit le Père », par exemple, il dit ça à Philippe, il prie en Jean 17 ou 19, je ne sais plus, 17 je crois, « Qu'il soit un, moi en eux, toi en moi ». Voilà, « moi en eux, toi en moi ». Le Christ est un avec nous, et il a fait par la gloire qu'il nous donne, et le Père est un avec lui. « Moi en eux, toi Père en moi ». Et encore, Jésus dit « Croyez que je suis dans le Père ». Et que le Père est en moi. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Il y a cette interpénétration entre le Père et le Fils. Et donc, un autre petit verset. Donc, c'est pour ça que les Juifs cherchaient à le tuer, parce que non seulement ils ne respectaient pas le jour du sabbat, mais en plus, il parle de Dieu comme son Père, et il se fait l'égal de Dieu, il se dit fils de Dieu. Donc, autant dire, c'est le blasphème total, mais c'est justement là que la révélation suprême que Jésus va apporter et dans laquelle il faut entrer, c'est que Jésus n'est pas un guérisseur ou un maître ou un gourou, comme il pourrait y avoir plein de sages ou des gens très intelligents. Non, mais Jésus est Dieu, est le fils de Dieu. Et il est vrai homme, mais il est vrai Dieu, et c'est vraiment le Fils de Dieu. Et il a la puissance, et il fait les œuvres, et il parle, et il dit la parole du Père. Donc qui voit le Fils, voit le Père en vérité. Hein, c'est Thomas, je crois, ou Philippe, je ne sais plus, qui dit « Montre-nous le Père, cela nous suffit ». Et c'est là où Jésus le rembarre en lui disant « Mais tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi, il y a si longtemps que je suis avec vous ». Et non, ils n'avaient pas compris que tout ce que dit Jésus, c'est le Père qui le dit, tout ce que fait Jésus, c'est l'œuvre du Père, et rien que ça. Et c'est ce que dit Jésus juste après. Il dit « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. » Pareillement, de la même manière, exactement pareil. Le Père, mais parce que le premier point, c'est le Fils ne peut rien faire de lui-même. Rien du tout. Rien. 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 Ben c'est comme si nous, on devait guérir tous les malades, voilà. Hein, ben moi, je ne peux rien faire de moi-même, ça c'est clair, je ne peux pas guérir un malade de moi-même, c'est impossible. J'ai beau essayer de me concentrer, de... Non, si c'est pas la puissance du Père, et si je ne fais pas l'œuvre du Père, si je ne suis pas dans la volonté divine, si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit qui passe à travers moi, ben ça ne marchera jamais. Hein, le Fils ne peut rien faire de lui-même, c'est pour ça qu'il reçoit cette puissance dans son humanité. Au baptême, il reçoit cette puissance du Saint-Esprit, et quand il reçoit cette puissance du Saint-Esprit, il y a le témoignage du Père qui se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Hein? Eh bien, le Fils, il ne peut pas, c'est de l'ordre du possible, il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est impossible en Dieu. C'est compliqué pour nous, parce que nous, on peut toujours faire quelque chose par nous-mêmes. En tout cas, on peut toujours faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la volonté divine. Voilà, ça c'est plus facile que de faire la volonté de Dieu. Mais on est capable, nous, parce que, à cause du péché. Mais le Christ qui est sans péché, lui, ne peut pas faire quelque chose de lui-même, c'est-à-dire où il serait sa propre initiative indépendamment de l'unité avec son père, au niveau de sa volonté, au niveau de son amour, au niveau de cette unité structurelle et essentielle, le fils ne peut pas faire quelque chose qui soit contraire ou qui ne soit pas l'expression de la volonté du père, qui est sa propre volonté aussi. Donc, il fait seulement et uniquement seulement ce qu'il voit faire par le père. Il voit, il contemple. Il y a une contemplation dans la Trinité. Le Père contemple le Fils et le Fils contemple le Père. C'est en permanence dans la relation trinitaire. Il y a cet Abba Père et tu es mon Fils bien-aimé, Abba Père, qui est lancé de l'un à l'autre. C'est une extase d'amour entre le Père du Père pour le Fils, pour son Fils bien-aimé, et il y a une extase d'amour du Fils bien-aimé pour son Père. Et cette extase d'amour, elle est sans cesse croissante en Dieu. C'est une adoration permanente. Une offrande, puisque l'amour est, on va voir ça dans un instant s'il me reste du temps, puisque l'amour est un don de soi, il y a un don de mutuel de l'un à l'autre qui est extatique, hein, et le fils ne voit ce que fait le père et il le fait pareillement, voilà. Et il fait seulement ce qu'il voit faire du Père. Il ne fait rien de plus, rien seul, rien indépendamment du Père, rien évidemment contre le Père. On pourrait dire qu'il pourrait faire des trucs pour le Père, mais qu'il soit ses propres trucs, les trucs du Fils et puis les trucs du Père. Non, c'est totalement uni. Et ça nous parle beaucoup parce que ça veut dire que dans notre vie chrétienne, on a nous aussi à bien comprendre qu'on n'est pas là pour faire les trucs de Jean-Michel ou les trucs de nos trucs à nous pour Dieu. C'est absolument pas ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas qu'on fasse des trucs pour lui, mais vraiment pas. Et on a trop fait et on fait trop souvent de la pastorale dans ça, moi. Et en vérité, c'est d'abord faire comme Jésus, voir ce que fait le Père. Il y a comme une contemplation intérieure que j'ai d'abord à approfondir. Seigneur, montre-moi, que je te contemple, que je te regarde. Il y a cette contemplation première dans le Fils, d'abord cette unité avec le Fils par notre baptême. Il y a cette unité déjà en nous que je dois faire grandir par la foi, et quand je prie, je dois être parfaitement un, moi en eux, toi en moi. Donc c'est Jésus en nous pour pouvoir faire en lui l'œuvre du Père. Et que notre œuvre, du coup, est l'œuvre de l'Église, l'œuvre baptismale, l'œuvre de tous les baptisés, l'œuvre des ministères de guérison, l'œuvre des ministères de prédication, de tous les ministères qu'il peut y avoir, d'enseignants, de docteurs, de pasteurs, soit toujours dans l'expression de l'œuvre du Père, et la réalisation de la volonté du Père. Alors pour Jésus, c'est facile, enfin c'est naturel en tout cas. Pourquoi ? À cause de la double nature, déjà. Jésus est vrai Dieu, il est co-naturel au Père. Il y a cette unité parfaite avec le Père, ce qui fait que cette unité parfaite, il y a une vision permanente et sans aucun défaut. Jésus voit en permanence dans sa divinité, durant toute sa vie terrestre. S'il a laissé la gloire qu'il avait auprès du Père avant pour s'incarner, pour vivre l'incarnation, dans sa divinité, jamais le Fils n'est séparé de son Père. Et donc il y a dans sa divinité, il y a vraiment cette unité parfaite avec son Père. Et donc du coup, c'est dans son humanité, puisqu'il est vrai Dieu et vrai homme, il y a deux natures qui vont cohabiter ensemble, qui ne sont pas fusionnées, mais qui sont vraiment ensemble. Donc Jésus a une vraie nature humaine et une vraie volonté humaine, et il a une vraie nature divine et une vraie volonté divine. Donc cette volonté divine, elle est parfaitement unie à la volonté du Père, ça, puisque dans la Trinité, il n'y a aucune once. Mais comme Jésus, dans son humanité, est sans péché, c'est le péché qui fait une différence, une séparation, une cassure au niveau de la volonté. Et donc même dans sa volonté humaine, Jésus est 100% conforme à la volonté de son Père. Alors ça n'empêche pas d'avoir des combats, ça ne va pas l'empêcher d'être tenté au désert, hein. Il est vraiment homme, donc effectivement. Mais sa volonté humaine est 100%... veut 100% ce que le Père veut. Voilà. Il veut 100% ce que sa volonté divine aussi lui montre, qui est la volonté du Père. Donc, notre volonté, c'est ça qui engendre des combats spirituels, c'est que notre volonté, elle n'est pas 100% dans ce que veut la volonté de Dieu. Notre volonté humaine, bien souvent, notre volonté propre, elle veut ce qu'elle veut, elle. Elle veut ce qu'elle veut, elle, et puis elle prend pas le soin de demander à Dieu à ce moment-là, parce que quand elle sait qu'elle va désobéir, ou quand elle sait qu'elle prend un risque de... Voilà, eh bien, elle demande pas. Elle dit pas à Dieu, est-ce que je peux ? Et voilà, et pour ça qu'une de nos prières de conversion que nous devons faire tous les jours, c'est le matin quand on se lève, Seigneur, je t'offre ma volonté propre, et j'accueille ta volonté divine. Voilà. Et il y a tout un courant spirituel là, qui est en train de... qui naît actuellement sur la volonté, la divine volonté, la volonté divine, bon, bref, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez, et qui est très intéressant, où c'est le don que Jésus veut faire actuellement à chacun d'entre nous, le don de sa volonté divine, pour pouvoir vivre chaque chose, toute chose, dans la volonté divine. C'est-à-dire, je t'offre, Seigneur, ma volonté propre, qui est soumise à l'orgueil, qui est soumise à la désobéissance, qui est soumise, puisque c'est une volonté charnelle, elle est marquée par le péché, et donc elle a besoin de se convertir, et donc je peux offrir ma volonté propre pour que je reçoive la volonté divine et que je fasse que tout ce que je fasse, tout ce que je dise, tout ce que je pense soit conforme à la volonté divine, afin que je dise, je pense et je fasse les œuvres du Père dans le Fils, par le Fils dans l'Esprit Saint. Donc pour nous c'est plus compliqué parce qu'effectivement à cause du péché, cette division en nous-mêmes déjà, entre ce que nous voulons faire, parfois l'esprit est ardent, mais la chair est faible, nous dit Jésus. Et on voit bien que parfois on veut suivre le Christ, etc. Et puis entre ce que nous faisons, c'est ok, vous avez compris le truc, quoi. Et Saint Paul le dit lui-même, c'est vraiment ce qu'il appelle même la loi du péché en nous. Hein. J'aperçois qu'il y a une loi dans ma chair qui fait que je fais le mal que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Donc il y a vraiment un truc, une espèce d'opposition et l'esprit s'oppose à la chair. L'esprit te dit, te fait aspirer parce qu'il est attiré par le Saint-Esprit, que l'esprit est uni au Saint-Esprit et l'Esprit Saint uni à ton esprit crie « Abba Père » en toi et donc t'aspire à toutes les richesses et à l'héritage du royaume qui est à toi déjà. L'esprit l'entrevoit, mais la partie après l'âme, la volonté, l'intelligence et le corps, tout ça résiste énormément. Et il y a cette espèce de division en nous qui fait que c'est pas simple. Et justement, la grâce va agir comme l'œuvre du Père de nous réunifier, de nous justifier, de nous sanctifier. Mais cette sanctification, elle nous réunifie par le don de sa gloire, c'est-à-dire de sa présence en nous. Hein. Jésus dit « Je leur ai donné la gloire pour qu'ils soient un ». Voilà, pas compliqué. Qu'est-ce qui fait que je suis un ? Par quoi Dieu m'unifie intérieurement et muni à lui, parce que le principe d'unité c'est lui, c'est le Saint-Esprit, mais c'est cette unité trinitaire dans laquelle on est. C'est-à-dire, je ne peux pas être fils de Dieu, agir en fils de Dieu et vivre cette double naturalité, une naturalité d'adoption divine dans cette nature humaine qui est la mienne, mais qui est marquée par le péché. Je ne peux pas la vivre en dehors de l'unité de Dieu. Et cette unité, pour qu'il soit un, d'abord entre nous l'Église, mais c'est d'abord dans mon cœur, ben, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un, moi en eux, toi en moi. C'est cette gloire-là que nous attendons, et cette gloire, c'est la présence de Dieu, c'est la présence d'adoration, c'est le Saint-Esprit qui est là. Je rentre dans la présence de Dieu, je rentre dans cette présence qui me mouille complètement, qui me réchauffe complètement, je rentre dans la présence du Père qui agit sans cesse, et donc dès l'instant que je rentre dans sa présence, et que je rentre dans cette gloire comme un espèce de rayonnement de lumière, merci Seigneur parce que c'est ta présence qui est là, tu vois, dans ce studio par exemple, dans votre salle à manger, dans votre salon, si vous écoutez en ce moment, dans votre chambre, devant votre ordinateur, fermez les yeux et juste, Seigneur, ta gloire est là. La gloire, elle n'a pas à être... La gloire je suis immergé dans la gloire dès l'instant que je pose l'acte de foi. Dès l'instant que je fais l'acte de foi qu'elle est là et que je rentre dedans, je suis dans cette gloire. Et dès cet instant-là, eh bien, Dieu agit en moi dans l'œuvre, son œuvre. Le Père agit sans cesse et toujours à l'œuvre, dans l'œuvre d'unification et de sanctification. Et il me donne cette justice. Et tout ça, évidemment, passe par le Fils et dans l'Esprit Saint. Et donc, voilà. Il me reste quoi ? 5 minutes, c'est ça ? C'est génial, j'ai fait... ouais, mais je suis parti un peu en lifestyle, donc du coup j'ai fait 2 pages sur 8, c'est cool. On va continuer quand même, et après il reste super chant de Glorious, donc on va quand même laisser du temps pour l'entendre, parce que Dieu bénit aussi dans la louange, simplement, hein. C'est bien de pouvoir contempler ensemble le mystère de l'unité et de l'action du Père, mais voilà. Et donc tout le drame du péché originel, eh ben, c'est ça, c'est cette séparation qu'il y a et cet appauvrissement de notre volonté, mais Dieu, dans cet appauvrissement, cette pauvreté de notre volonté, nous fait le don de la volonté divine actuellement. Jésus nous fait le don de cette volonté divine si nous lui offrons notre volonté propre pour la mettre en obéissance à sa volonté commune. C'est l'offrande que nous faisons. Donc c'est vrai qu'en Jésus, cette volonté, elle est une, totale, sans imperfection, sans faille par rapport à la volonté du Père. Il y a une seule volonté divine, celle du Père, qui est également celle du Fils. Elle est pareille. Et c'est pour ça que Jésus ne peut pas vouloir, ne peut pas faire quelque chose d'autre. Il ne le peut pas à cause de cette perfection de l'unité. Il ne peut pas. Et donc cette perfection d'unité, elle est profondément liée à l'amour. C'est ce que va dire Jésus juste après. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Et ces œuvres encore plus grandes, c'est quoi? C'est comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Voilà. Le Père, voilà. Et la base, c'est car le Père aime le Fils. Car le Père aime le Fils. Le Fils ne peut pas faire, ne peut rien faire de lui-même. Il voit seulement, il voit ce que fait le Père et il fait pareillement ce que le Père fait. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Père nous aime et nous montre tout. Si nous sommes en Jésus, alors le Père, puisqu'il montre tout ce qu'il fait au Fils, il montre tout ce qu'il fait à chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il y a un accès pour chacun d'entre nous. En Jésus, c'est très important parce que ça va casser un peu, non mais je comprends rien, ça va ouvrir le chemin de la voie prophétique. C'est-à-dire le prophète, c'est celui qui est dans l'intimité et qui voit les choses de Dieu et qui les proclame pour qu'elles adviennent. Eh bien, dans le Fils, dans l'intimité avec le Fils, je suis dans cette vision du Fils qui me montre ce qu'il voit, et ce qu'il voit, c'est ce que le Père lui montre. Et le Père lui montre tout car il aime. Donc il y a cette expérience d'amour, le Père aime le Fils. Quand je suis dans le Fils, j'expérimente l'amour du Père pour moi. Le Père m'aime et me montre tout ce qu'il fait. Voilà ce que je peux dire. Cette phrase, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Frères et sœurs, tu es Fils de Dieu. Donc le Père t'aime et te montre tout ce qu'il fait. Le Père m'aime et me montre tout ce qu'il fait. Et il me montrera, je change lui par me, et il me montrera des œuvres encore plus grandes, parce que Dieu fait toujours des choses merveilleuses de plus en plus grandes, et des œuvres encore plus grandes. Ça, c'est la vertu d'espérance. Frère, c'est absolument insupportable quand un chrétien n'a pas l'espérance des grandes œuvres que Dieu veut faire. C'est pas possible, ça. Mon espérance... c'est pas juste d'aller à ma petite messe, c'est pas de prier mon petit chapelet, c'est pas, qui peut être un grand chapelet, mon petit rosaire, mon grand rosaire, mon adoration. Ça, c'est les moyens d'entrer dans la communication avec Dieu, d'adorer Dieu. Et souvent, dans ces temps-là, d'ailleurs, l'adoration, tout ça, on parle, on n'écoute pas Dieu. Et on ne regarde pas ce que Dieu veut nous montrer. On n'accueille pas les visions que Dieu nous montre. On n'accueille pas des images dans notre cœur que Dieu veut nous montrer. Et c'est juste faire beaucoup de bruit. Et Jésus dit, ouais, tais-toi. Tais-toi, laisse-moi te montrer ce que le Père fait et fais-le. Laisse-moi te faire entendre la voix du Père qui te dit « je t'aime » et aime-le. Laisse-moi te faire entendre sa voix et ses œuvres. Hein, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Eh bien, je prie pour que chacun d'entre nous puissions voir les œuvres du Père. Dans notre fond interne, dans notre fort interne, dans ce cœur profond qui est l'esprit, au fond de nous-mêmes, dans notre âme là, qu'on puisse voir ce que le Père fait dans les lieux célestes et qu'il fait à travers son Fils, et nous sommes les membres de son Fils, l'Église. Hein. Et il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Ces œuvres encore plus grandes, c'est ces œuvres. Soit de ministères qui correspondent à ce que nous allons vivre dans les temps qui viennent, un temps de réveil comme jamais dans l'Église, et qui vient, et c'est évident, et quand je vois ces initiatives que l'Esprit suscite dans l'Église comme Lyon Centre, je me dis, waouh, c'est extrêmement fort sur ce qui va se passer dans l'Église catholique. Ça va réveiller pas mal d'évêques et de prêtres, ça va leur foutre des bonnes claques, parce que c'est violent, le changement mental que ça demande d'opérer. Ça va briser en mille morceaux la religiosité, la rigidité. C'est tellement facile de se rigidifier alors que tout d'un coup, il y a cette liberté de l'esprit et de la présence de Dieu qui casse les codes. Mais c'est aussi les grandes choses qui viennent, qui nous étonnent, c'est la puissance de vie. Hein. C'est ce que dit juste après Jésus, comme le Père en effet relève les morts. L'action du Père, c'est de relever les morts. On croit que c'est Jésus qui ressuscite les morts, mais non, C'est le Père qui relève les morts. Nous sommes vivants, ressuscités, parce que nous sommes ressuscités dans le Christ. Mais celui qui ressuscite Jésus d'entre les morts, c'est le Père. Le Père ressuscite Jésus d'entre les morts par cette puissance de résurrection qu'est l'Esprit Saint. Donc comme le Père en effet relève les morts, donc ressuscite les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Et c'est le Christ qui nous fait vivre de sa propre vie. Et ça, c'est merveilleux. C'est quand je suis mort dans mon âme, quand je suis la chose merveilleuse, encore plus grande et toujours plus grande, c'est chaque fois que j'ai une croissance de la vie divine dans mon cœur. Il y a la première, il y a l'arrachement, la conversion. J'étais dans les ténèbres, j'étais dans la tristesse, j'étais dans les liens du péché, et le Christ m'a sauvé. Donc souvent, ces jeunes convertis sont pleins de feu parce que tout d'un coup, leur vie change et puis ils découvrent cet absolu et cette folie de Dieu, bon, qu'ils ne savent pas forcément toujours très bien canaliser, mais c'est normal parce que c'est trop fort pour eux. Et en même temps, c'est une bonne chose aussi de laisser le geyser, de jamais éteindre ce geyser de l'amour de Dieu et du feu en nous. Faut juste pas que ce soit fatigant pour les autres, sinon après ça devient pénible. Mais en même temps ça réveille. Mais c'est d'abord, vous voyez, c'est aussi cet accroissement tous les jours de me dire, tu vas me montrer aujourd'hui une œuvre encore plus grande que hier. Tu vas me montrer, et cette œuvre encore plus grande que hier, c'est que Jésus, tu me donnes, c'est toi qui me fais vivre en toi. C'est toi qui me fais vivre de ta propre vie, dans ta propre intimité avec le Père, et tu me donnes de voir ces œuvres pour que en toi, je les vois et que je puisse les accomplir. Puisque le Fils fait les mêmes œuvres que le Père, moi-même, je vais faire les mêmes œuvres que le Père. Et c'est pour ça que quand je m'offre à la volonté divine, quand j'offre ma volonté propre pour accueillir la volonté divine, le but, c'est que je ne fasse plus mes propres œuvres selon ma volonté propre, mais que je fasse les œuvres du Père selon sa volonté à lui. Avec, du coup, le déploiement du surnaturel qui va avec. Et Jésus, dans tout son ministère, n'a fait que la volonté du Père. C'est pour ça qu'il guérit les malades, ressuscite les morts, chasse les démons, etc. Parce qu'il ne fait que les œuvres du Père, conformément à redonner vie aux morts, à ceux qui sont dans la mort de l'âme ou dans la mort physique. Hein, il le fait, non pas par la puissance de son humanité, mais il le fait par la puissance de l'esprit de résurrection, la puissance même du Père. On va arrêter là pour aujourd'hui et on va accueillir, on va rendre grâce juste à Dieu pour cet extraordinaire plan de Dieu qui nous a introduit dans cette Trinité, qui nous a introduit, qui a fait de nous des enfants, mais enfants du Père. Et on va juste rendre grâce à Dieu et s'offrir à lui pour que sa volonté divine se fasse vraiment dans notre cœur tous les jours. Amen.